Il est 20h passé de 5 minutes. Vous allez tout de suite pouvoir retrouver votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio G sur le 101.5 FM et tout de suite c'est l'heure de Génération Sport. Alors on est un tout petit peu en retard, excusez-nous, il est 20h05, aujourd'hui émission spéciale UFAB puisque nous sommes le 4e mardi du mois et donc aujourd'hui nous recevons une joueuse de l'équipe féminine de basket, on reçoit Touti Gandega. Bonsoir Touti.
Bonsoir.
Comment ça va ce soir?
Ça va très bien, merci.
Donc avant de parler plus en détail de toi, de ta saison, et on va aussi évoquer les saisons précédentes, l'équipe est toujours présente, c'est la même équipe, Cédric est présent. Bonsoir Cédric, comment ça va?
Eh ben écoute, salut à tout le monde, ouais, ça va, hein. Petite semaine un peu morose pour certains clubs en juin, on reviendra notamment sur la difficile... journée de vendredi et de dimanche pour l'ASGA, enfin pour les Ducs, entre autres, et puis voilà quoi.
Et justement, à propos des Ducs, il me semble que tu es allé voir un match à la Ice Park, et justement, tu auras l'occasion de nous en parler plus en détail.
On le développera au moment du 1-2.
Et puis ce soir, à la régie, c'est Alex. Salut Alex, comment tu vas?
Eh bien, ça va bien, Max. Ravi d'être là. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses à dire pour cette actualité du sport de ce week-end. Donc voilà, que ce soit dans les actualités locales et internationales, mais on reviendra évidemment longuement dessus.
Et on va commencer notre émission par la traditionnelle chronique, le 1-2. Alex, je te laisse la débuter.
Et oui, on va commencer donc avec les actualités locales. Si les supporters du SCO Handball avaient encore des doutes, l'objectif du club angevin est désormais clair. L'équipe de Guillaume Dupin et d'Issam Tej jouera le maintien lors de cette saison 2021-2022 de Pro League. Les SCOistes sont en mal de points depuis le début de l'année et devront se résoudre à assurer leur place en deuxième division. Vendredi soir à domicile contre Caen, un adversaire plutôt abordable sur le papier, les Angevins ont dû lutter pour décrocher le match nul en toute fin de match. Menés très souvent en première mi-temps, les coéquipiers de Steven Corneille sont bien revenus en seconde période et c'est finalement le Brésilien Rodolfo Oliveira qui donna la victoire à son équipe à quelques secondes de la fin du match. Les Noirs et Blancs peuvent également remercier leur gardien égyptien Mohamed Ali qui a été auteur donc d'une nouvelle excellente performance dans les buts avec 15 arrêts, ce qui lui permettra de figurer notamment dans le 7 de la semaine du championnat. Ce point du match nul ne change rien à leur place de lanterne rouge et il faudra espérer donc engranger de précieux points la semaine prochaine contre Valence, 11e du championnat.
On va parler du SCO, cette fois-ci le SCO football qui se déplaçait à Saint-Étienne. C'était vendredi dernier, Saint-Étienne qui était et qui est toujours dernier de Ligue 1. On le rappelle, hein, 10 matchs sans victoire pour les Verts et les Angevins ont bien failli faire un autre mauvais tour aux Stéphanois. Les Angevins menaient 2-0, des buts signés Traoré le capitaine et Angelo Fulgini et puis finalement les Stéphanois. On retrouvait du poil de la bête et on su par Wabi Kazri, puis ensuite par Mickaël Nadé sur penalty à la 94e minute de jeu, égalisé et donc score final 2-2. Les Angevins qui peuvent avoir des regrets au niveau du classement, les Angevins sont toujours à une très belle 6e place et puis le prochain match ce sera un très gros match, ce sera le 31 octobre donc dimanche qui arrive et ce sera la réception d'une très très bonne équipe de Nice.
Et un match qui a fait parler doublement encore une fois.
Oui, parce qu'il y a eu des incidents
entre
avant le match.
Voilà, le report du match à peu près 54 minutes je crois. Et aussi l'utilisation encore de la VAR.
Oui, c'est ça.
Sur le deuxième but, stéphanois, voilà, où il y a une poussette sur un de nos défenseurs.
C'est ça pour.
Ça a encore fait des discussions autour de la VAR.
Pour contextualiser, il y a eu. Le match n'avait pas commencé, que les supporters de Saint-Étienne ont jeté des fumigènes. Il me semble qu'il y a eu les filets des buts qui ont été cramés.
Alors, du clamé ou découpé, je ne sais pas trop ce qu'il y a eu de version.
Voilà, il criait à la démission notamment de Claude Puel. Donc il y a eu, ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup d'arrêts de jeu. Est-ce qu'ils ont raison de le faire ? Probablement pas, mais j'espère en tout cas que pour la direction stéphanoise que leur message a été entendu.
On va enchaîner avec le basket. L'EAB toujours invaincu en championnat de National 1. Les hommes de Sylvain Delorme ont signé ce week-end une 6e victoire en 6 matchs disputés à l'occasion du derby des Pays de la Loire face aux Sables d'Olonne. Les Angevins sont plus que jamais leaders de la poule A et ils tentent en ce moment même de décrocher leur 7e succès de suite à domicile face à Cergy Pontoise. On vous tiendra bien sûr au courant de l'évolution du score de la rencontre tout au long de l'émission. Chez les femmes, l'UFAB continue son excellent début de saison à l'FB avec une 3e victoire en 4 matchs, cette fois face à un cador de championnat. C'était l'AT Montpellier. Les Montpellierennes, vice-championnes de France en titre, ont goûté à la ferveur de la salle Jean Bouin et ont subi les foudres notamment de Jasmine Bailey, 24 points et 30 d'évaluation, également MVP de ce match. Les Angevines peuvent donc se targuer d'avoir fait tomber un club évoluant en Euroleague. Ce prestigieux succès les propulse d'ailleurs sur le podium du classement de l'FB derrière Roche-Vendée et Charleville-Mézières. On aura évidemment, Max, l'occasion de revenir sur ce match avec notre invité Touti Grandega.
On va partir sur la glace et on va parler des Ducs d'Angers qui ont vécu une semaine très riche en émotions et une semaine très importante. Il n'y a pas eu de match mardi dernier, mais il y a eu un match mercredi, un match de Coupe de France. C'était avec un déplacement à Tours et les Angevins ont bien géré ce match avec une nette et large victoire 6-0. Et puis après, il y a eu deux très gros matchs et malheureusement deux défaites des Angevins. On y reviendra un petit peu plus en détail avec Cédric. Il y a eu cette première défaite, donc il me semble que c'était vendredi dernier avec la réception des Dragons de Rouen, avec une défaite angevine 3-0. Et puis après, donc dimanche, il y a eu un autre déplacement à Anglet et une fois de plus les Angevins sont tombés, ce qui est assez rare cette saison. 1-0, donc victoire pour Anglet. Toi Cédric, t'as participé, alors non,
oui,
pas directement.
Si, si, si.
Tu as été voir le match Angers-Rouen et cette défaite donc 3-0 face à Rouen. Qu'est-ce que tu en as retenu?
3685 personnes à fond, ouais. Dès le début. Bah, des deux côtés, hein, c'est ça qui est beau au hockey, en tout cas, comparé à d'autres sports. C'est que là, c'était mélangé. Enfin, c'est aucune animosité dans les tribunes. On a eu de la tension pendant le match entre les joueurs, mais j'ai envie de dire c'est les classiques coups qui partent au hockey, quoi. Enfin, pas plus, pas moins que d'habitude. De l'engagement des deux côtés. Franchement, on voyait que c'était pas le petit match qu'on joue tranquillement. Mmh. Non, il y avait quand même la rivalité historique entre les deux clubs qui était là. On voit qu'il y a l'expérience de Rouen qui a payé sur ce match-là. Carrément, de jouer en Europe, je pense que ça leur a fait encore passer un cap. Le gardien, il fait un clean sheet, 100% d'arrêt. Donc voilà, c'est un beau match d'un point de vue jeu. Il n'y a rien à dire. Hein. Après, voilà, le score paraît grand, mais le deuxième temps, tiers-temps, a été fou, quoi, parce qu'Angers a attaqué, 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 et ça manque de rentrer à chaque fois de pas grand-chose. Non, non, c'était... Franchement, c'est... Pour avoir vu un match avec une équipe un peu moindre, on voyait tout de suite que le jeu a monté d'un niveau d'un coup, et... C'était impressionnant à voir, quoi. Enfin...
En tout cas, c'est ce qu'on avait prédit, hein, une très très grosse ambiance pour peut-être le match le plus important de la saison. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir, ou du moins de t'intéresser aux résultats face à Anglet et donc cette défaite 1-0 qui a suivi ?
Alors, j'ai pas pu voir le match, mais j'ai regardé un petit peu le pourquoi du comment. Déjà, bah, c'est simple, dans les buts d'Anglet, c'est notre ancien gardien. Florent Hardy, donc...
On connaît la qualité.
Voilà, qui a plus rien à prouver à ce niveau-là. Qui est dans un nouveau challenge. Donc forcément, jouer face à son ancienne équipe, je pense que lui, ça l'a transcendé. Et puis bon, derrière, je pense que voilà, le jeu est étudié. Lui, il sait comment un peu les attaquants jouent. Donc ça a dû y jouer. Puis bon, il y a un facteur, je pense, qui a dû y jouer. C'est 3 matchs dans la semaine.
Ouais.
Dont 2 déplacements. Donc ça peut y jouer. Plus la... la défaite de vendredi, il n'y a rien d'alarmant. Hein. Après, quand on voit le classement, les trois qui sont en tête, c'est les trois qui sont prévus pour être là. Hein.
Et justement, le classement, on va y venir. Angers, qui avec ses deux défaites consécutives, se place toujours troisième avec un match de retard, classement qui est largement dominé par Grenoble, hein, 27 points en 10 journées, je crois qu'ils font un sans faute pour l'instant. Et en tout cas au niveau du calendrier, donc les Ducs jouent ce soir, c'est dans un quart d'heure, donc début du match à 20h30, ils reçoivent Mulhouse, on espère que les Ducs d'Angers vont se relancer. Et puis les deux matchs qui suivent en Ligue Magnus, eh ben, c'est les deux matchs dont on vient de parler, les matchs retour, puisque les Angevins se déplaceront à Rouen le 29 octobre. Et pareil, deux jours après, donc dimanche 31 octobre, les Angevins recevront Anglais. On espère que la forme va être plus présente que la semaine dernière.
Et puis le mardi d'après, je crois qu'ils enchaînent sur le match de Coupe de France.
Ouais, le 2 novembre.
Contre le champion en titre.
Face à Amiens.
On va donc enchaîner, on va revenir un petit peu sur le football. Petit point au niveau du SO Cholet. Les joueurs de National ont disputé vendredi un match au sommet face au leader de championnat, le FC Annecy. Les Savoyards ont infligé une sévère correction 3-0 aux Maugeois qui perdirent sur expulsion leur capitaine Pierre Ruffo. Bien aidé par l'ancien niçois Alexis Bossetti, le club de Savoie a donc conservé sa place en tête du classement, tandis que les joueurs de Richard Désiré stagnent dans le milieu de tableau à la 9e place. Mais les Choletais ont l'opportunité dès ce soir d'engranger de nouveaux points contre Villefranche-Beaujolais, un autre sérieux candidat à la montée qui devrait donner donc du fil à retordre aux Rouges et Noirs. Le score est actuellement de 1-0 pour Villefranche. Puis une autre information, hein, on va clôturer la page actualité locale avec donc un autre sport hein, dont on a peu l'habitude de parler ici à Génération Sport. Caroline Edui, la gymnaste originaire de Trélazé, a disputé ce jeudi les championnats du monde de gymnastique au Japon, trois mois après avoir pris part à ses premiers Jeux Olympiques à seulement 17 ans. Et la Française a fait mieux que lors des Jeux puisqu'elle s'est classée à la 9e place du concours général.
On va clore cette chronique d'actualité locale, pardon, et on va entamer la partie mondiale. On va continuer de parler de football avec la Ligue 1 et cette 11e journée qui s'est achevée ce week-end. On a déjà parlé du résultat de Angers face à Saint-Étienne. On va évoquer tout de suite les autres résultats avec tout d'abord la victoire de Nantes 2-1 face à Clermont. Nantes qui s'est clairement retrouvé ces derniers matchs. Lille et Brest se sont quittés dos à dos, score final 1 partout, tout comme Lorient et Bordeaux. Le très gros match du week-end, c'était l'OGC Nice qui recevait l'Olympique Lyonnais, les Lyonnais qui menaient 2-0 et puis dans un scénario complètement fou, en 10 minutes se sont fait complètement renverser, victoire finale de Nice 3-2, Lyon qui perd des points et surtout du moral dans ce match. Lens qui continue sa bonne progression sur le podium, victoire des Lensois 4-1 face à Metz, 3 bat Reims 2-1, Rennes a battu Strasbourg 1-0 et Montpellier a perdu face à Monaco 3-1. Et puis dimanche soir, il y avait le Classico, Marseille recevait le Paris Saint-Germain, un très gros match et malheureusement, score final nul et vierge 0-0 entre les deux équipes, quelques déceptions des deux côtés. Et puis si on regarde le classement, Paris, Lens et Nice sont sur le podium et Brest, Metz et Saint-Etienne sont en bas du podium, du classement pardon.
On va enchaîner avec le handball. Le week-end était marqué par un duel au sommet entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Les clubs évoluant cette année en Champions League s'affrontaient à l'occasion de la 7e journée de Lucky Moly Star League. Ce choc aura tenu donc toutes ses promesses puisqu'on a eu droit à un véritable bras de fer entre les deux cadors du championnat de France. Menés pendant une grande partie de la rencontre, les Montpelliérains parviennent à faire basculer la partie et à repasser devant en fin de match. Dos à dos à 10 secondes de la fin, les deux formations se départageront grâce au génie du Danois Mikael Hansen. Un but somptueux quasiment au buzzer qui donne la victoire 34-33 aux Parisiens, toujours invaincus cette année en championnat. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil hein, si vous avez le temps à ce but, c'est un pur bijou de climatisation. Au classement, le PSG est donc toujours leader incontesté devant Aix-en-Provence et Saint-Raphaël, tandis que le MHB est 8e et en grande difficulté depuis le début de la saison en championnat.
Allez, on va parler vitesse, on va parler engin. Il y a eu un très gros exploit, c'est celui de Fabio Quartararo qui a remporté les championnats du monde de MotoGP. C'était suite donc au dernier Grand Prix qui se déroulait en Italie. Et même s'il n'a pas gagné de Grand Prix, Cédric, il a été champion. C'est un vrai exploit, c'est du jamais vu. C'est la première fois qu'un Français remporte ces championnats.
Dans la catégorie Rennes, ouais, c'est une première. Il y a eu un petit facteur chance quand même, hein, pour parce qu'il partait, je crois, de fond de grille.
À la 15e
place. À la 15e, c'est ça. Ouais. Et il a fait déjà une bonne remontée. Et son adversaire direct chute, je crois, dans les derniers tours, voire dans le dernier tour.
C'est grâce à ça qu'il est.
C'est grâce à ça, voilà, qui. Le peu de points qu'il a pu récupérer, ça fait la différence. Et malgré qu'il reste, je crois, un ou deux grands prix, la victoire, elle est acquise, quoi.
Et on va passer du moto, de la moto, pardon, à la voiture, puisque dimanche dernier, il y avait également le Grand Prix des États-Unis, Grand Prix à nouveau remporté par Max Verstappen. Cédric, est-ce que tu sens la victoire finale de Verstappen, ou alors tu penses qu'Hamilton va réussir à combler son retard?
J'ai l'impression qu'il se passe des trucs chez Mercedes entre Hamilton et son écurie, je sais pas pourquoi, mais depuis les deux derniers Grands Prix, il y a eu des petites tensions. Là, je l'ai trouvé quand même en retrait. Donc, à voir. Après, tout dépend des améliorations qu'ils vont apporter d'ici là. Il y a peut-être encore des changements de pièces qui vont avoir lieu. Il y a des décisions tactiques qui sont un peu bizarres. Autant on voit Red Bull remonter la pente, autant de leur côté, j'ai l'impression que c'est un petit peu en roue libre en ce moment. Donc ça va être serré. Hein. De toute façon, là, il n'y a pas grand-chose en termes d'écart. Donc à voir sur les derniers Grands Prix qui vont peut-être être plus adaptés à la puissance moteur de Mercedes que des Red Bull.
Prochain Grand Prix, donc, dimanche 7 novembre, et ce sera celui du Mexique.
On va terminer avec du basket et un petit point sur la NBA. Hein, on le sait depuis une semaine, c'est parti pour ces résultats de NBA du côté des États-Unis. Je vais vous donner quelques résultats forts de la nuit dernière. La victoire notamment en prolongation des Celtics de Boston contre Charlotte, 140 à 129. Milwaukee l'a emporté 119 à 109 contre Indiana. Et on peut aussi parler de la victoire des Nets de Brooklyn, 104 à 90 contre Washington, hein, également la victoire de Chicago sur le terrain de Toronto, 111 à 108. On va faire surtout un point sur le classement des deux conférences avec pour l'instant donc 7 équipes sur les deux conférences qui sont toujours invaincues. Charlotte, Chicago et Washington du côté de la conférence Est qui sont invaincus, avec notamment juste derrière les Knicks de New York, hein, qui sont donc 4e avec le français Evan Fournier, hein, qui fait un bien fou aux joueurs de New York. Et puis du côté de la conférence Ouest, le classement est dominé par donc 4 équipes qui disposent de 100% de victoire, donc Denver, Golden State, Minnesota et l'Utah Jazz. Et puis on peut faire un petit mot, on peut revenir du côté de l'Europe avec l'Euroleague. Ce soir, il y a donc un match pour un club français, c'est Monaco qui défie l'Étoile Rouge de Belgrade, actuellement 52-52 entre les deux équipes. On pourra peut-être vous donner la fin de ce match si évidemment le temps le permet dans la suite de l'émission. Max, je vais te laisser la main.
Et oui, puisqu'on est très content de recevoir Tutti Gandega, une fois de plus, merci beaucoup d'être présent ce soir donc dans Génération Sport. On avait reçu Isis Arando le mois dernier, et c'était avant le début de la saison, avant le premier match de cette nouvelle aventure, de ce nouveau championnat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce championnat a plutôt bien, voire très bien commencé pour l'UFAB. Alors comme on l'a dit un petit peu avant, on va s'intéresser au début de saison encourageant. On va parler aussi un petit peu des saisons précédentes avec le Covid-19. On parlera aussi un peu de toi, Tutti. Mais avant tout, première question importante, comment ça va en ce moment? Est-ce que le moral est là? Et est-ce que ce début de saison te comble?
Alors déjà, merci de m'avoir invité à votre radio. Et concernant notre équipe, pour le moment, le moral il est bon parce qu'on gagne. Ça, c'est clair. On ne s'attendait pas déjà à battre Montpellier chez nous. Donc, c'était déjà un grand coup. Mais moralement, tout le monde est content, on se supporte et l'équipe vit bien.
Et justement, on va en parler de ce début de saison. Il a très bien commencé par une victoire face à Saint-Amand. C'était un premier match important. Comment vous l'avez pris ce match? Est-ce que vous étiez stressé de découvrir ou même de redécouvrir le très haut niveau? Ou alors vous avez vraiment à cœur de montrer que qui vous étiez et que vous n'étiez pas là pour faire de la figuration?
On était stressé, mais c'était du bon stress. On était excité de pouvoir reprendre en Ligue 1. Et c'était un match très important parce que c'était nos concurrents directs. Les trois premiers matchs de championnat, c'était carrément nos concurrents directs. Donc, le fait d'avoir gagné à l'extérieur, en plus, ça nous a fait un bien fou. Et on est vraiment content des résultats et pour que ça continue, quoi.
Et toi, sur un plan plus personnel, ce match, est-ce que t'as retrouvé des émotions que t'avais pas perdues, mais
Quand même, si. Parce que, ayant joué en Ligue, et je suis partie en Ligue 2 et on est revenu, j'étais vraiment contente de pouvoir revenir dans cette Ligue. Qui n'est pas facile du tout, mais on a vraiment un bon groupe, donc j'étais contente et vraiment pressée de pouvoir rejouer.
Les gars, n'hésitez pas, hein, si vous voulez interrompre. Et donc, après cette première victoire, il y a eu la première victoire à domicile de la saison, c'était face à Tarbes. Ensuite, il y a eu une défaite face à Charnay, puis une nouvelle victoire face à Montbrison. Et enfin, le dernier match en date, Alex t'en a un petit peu parlé dans la chronique, c'était une victoire de plus face à Montpellier. Est-ce que c'est le début de saison rêvé, le début de saison parfait pour l'UFAB?
Bien sûr, franchement, pour une équipe qui vient de monter, c'est vraiment très très bien. Après, on a un peu de regret par rapport à Charnay, parce qu'on perd que de 5 points. C'est passé de peu, mais bon, on prend déjà ce qu'on a à prendre. On essaie de faire de grands écarts pour le goal average aussi pour les matchs retour, parce qu'on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri. Mais en tout cas, on est très très contente et pourvu que, encore une fois, que ça continue comme ça.
Vous vous attendiez à ça ou pas du tout?
Honnêtement, non. En tout cas, personnellement, je vais pas parler au nom de l'équipe. Mais c'est vrai que ça m'a surprise de voir qu'on peut tenir tête. Vu qu'on vient de monter, on est un peu anxieuse. Mais quand on voit la manière dont on s'entraîne ou la vie de groupe, franchement, c'est cool.
Ouais, c'est ça. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'UFAB vient de monter en LFB. Et donc, justement, on va en parler, hein, de la victoire face à Montpellier. Et donc, même avec cette montée, je crois que dans ta chronique, tu parles de 3 victoires en 4 matchs.
C'est ça.
C'est ça. Il n'y a pas eu... C'est pas 4 victoires en 5 matchs?
Non, parce qu'il y avait un match de Coupe de France.
D'accord.
Donc,
okay.
Du coup, c'était une équipe Ligue 2 Montbrison.
C'était Montbrison, ouais.
Voilà.
Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je me suis dit. J'ai peut-être fait une erreur dans mes recherches. Et donc, justement, on va parler de ce dernier match, hein, celui face à Montpellier. C'était samedi dernier à Jean Bouin. Et quelle victoire de l'UFAB face à l'une des plus grosses équipes, hein, du championnat depuis ces dernières années. Ça devait être aussi bien personnellement que collectivement un super moment, un très grand moment. Comment tu l'as vécu, ce match, toi?
Franchement, le match, c'était un peu stressant parce qu'on s'est dit, on joue contre Montpellier, une équipe Euroleague, faut pas l'oublier. Et de les recevoir, on s'est dit, bon, on n'a rien à perdre. Au contraire, on vient d'arriver dans la Ligue, on a besoin de victoire, donc on se lâche. Et que ce soit les filles sur le banc ou sur le terrain, tout le monde s'est supporté, on s'est encouragé. On a eu un moment où on était un peu en dessous, mais on a eu un coach qui a su nous dire les bons mots à la mi-temps. Et après, ça y est, les filles, elles se sont données et c'est passé.
Et j'imagine que retrouver un public comme ça dans un match si important, ça devait faire chaud au cœur.
Oui, bien sûr, on a eu une ambiance de folie. Franchement, c'était du début jusqu'à la fin, il y a eu du suspense, il y avait de tout. Et le public, ils nous ont grave poussé. Et même nous, même les filles du banc, on était à fond. Et franchement, c'était cool.
Et justement, hein, tu parles de public. Il y a eu des saisons, les deux dernières saisons notamment, qui étaient un peu compliquées à cause du Covid. Mais au-delà du sport, au-delà du basket, pour tout le monde, c'était compliqué. Comment tu l'as senti, cette saison sans public? Et en plus, il y a eu cette montée au final. Est-ce que tu étais pleinement heureuse ou alors tu avais quand même cette déception de ne pas pouvoir fêter ce titre avec le public?
Bah, sur le coup, quand on monte, on est contente, bien entendu. Mais c'est après coup, on se dit, on aurait bien aimé fêter ça avec les Angevins. C'est normal, franchement. Et, on a toujours eu un bon public. Ils nous suivaient à travers les réseaux sociaux, YouTube ou la chaîne. Il y avait une chaîne sur YouTube qui passait les matchs, mais... C'est vrai, c'était compliqué. Au début, on avait eu du mal. On s'est dit, mince, on va jouer sans public, ça va être bizarre. Après, on savait le contexte, donc on faisait avec. Mais c'est vrai que les deux premiers matchs, on s'est regardé en mode, ils sont pas là. Ils nous supportent à travers les réseaux, mais c'est parti, on joue.
Ouais, après, c'est le boulot.
C'est le boulot. Au début, c'est comme à l'entraînement, en fait. On arrive, la salle, elle est vide, mais on est obligé de jouer.
Et puis, de toute façon, voilà, comme j'ai dit, vous avez retrouvé le public. Donc, au final, il n'y a même plus de regrets. Même si fêter un titre avec son public, ça doit être quand même quelque chose d'assez impressionnant dans une carrière.
Ouais, surtout quand c'est la première fois qu'on monte, on aurait bien aimé. Mais franchement, ils ne nous ont pas lâchés. Même s'ils n'étaient pas là, sur les réseaux, c'était incroyable.
En tout cas, on sait que c'est un public, hein. On a eu l'occasion d'y aller à Jambon et on sait que cette saison, vu que vous êtes au plus haut niveau, il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils viennent chaque week-end. Donc on a un peu parlé du match face à Montpellier. Est-ce qu'à part celui-là et le premier match, il y a un autre moment, un autre match qui t'a marqué dans ce début de saison, peut-être un moment charnière?
Pour le moment, on n'en a pas joué beaucoup. Mais déjà, le premier match, déjà, d'avoir gagné, revenir en LFB et gagner, déjà, ça nous a fait du bien, déjà, mentalement, au niveau du moral. Et là, le fait d'avoir joué à Montpellier, c'est une grosse équipe. Hein. Certaines personnes ne peuvent pas s'en rendre compte parce que peut-être ils ne suivent pas le basket. Mais franchement, c'était une très grosse victoire. Et on prend.
Ouais, la Montpellier, pour rappeler, donc on le disait, c'était finaliste des derniers playoffs de LFB, donc c'est donc les deuxièmes. Elles jouent actuellement donc en Euroleague, où elles sont plutôt bien classées après trois matchs. Et également, elles ont gagné la Coupe de France l'année dernière. Donc c'est vraiment un gros morceau. Et c'est vrai que pour un promu, c'est une excellente performance. Et
même au-delà de l'année passée, sur les dernières saisons, sur les 5-10 dernières saisons, ça joue les.
C'est un gros club.
Oui, c'est un très très gros morceau. Mais justement, il me semble que c'est pas leur seule défaite. Et il me semble qu'en LFB,
ça galère un peu.
C'est un peu plus compliqué pour elles.
Elles avaient déjà perdu deux matchs.
Oui.
Contre Charleville-Mézières et je crois que c'était Basketland. Donc aussi,
c'est des grosses équipes aussi.
On va dire, les top 6.
Ouais.
Toutes ces équipes-là, c'est vraiment c'est vraiment costaud.
Et justement, par rapport à ces matchs face à des grosses équipes, donc là, il y a eu ce premier match face à l'AT Montpellier. Comment vous les abordez, ces matchs? Est-ce que vous y allez sans complexe? Comment vous abordez tout ça?
Justement, tout à l'heure, on était à l'entraînement et notre coach il nous dit, là, on va aller à Lyon. Lyon aussi, c'est Marine Johannes, des Jeux de l'équipe de France, Elena Sec, tout ça. Et il nous dit, on va pour jouer. Vous prenez pas la tête, on n'a rien à perdre, encore une fois. On y va, on prend du plaisir. Il y a deux, trois filles, il faut qu'on les target du style, on les cible pour pouvoir quand même avoir un minimum de fond de jeu. Mais il est en mode, notre coach, et les filles, on est en mode, on y va.
Oui.
Franchement, on a gagné contre Montpellier, on donne tout ce qu'on a, et puis si on gagne, tant mieux.
Ouais,
et
ça.
Si on perd, c'est comme ça.
Ouais, de toute façon, oui, comme tu l'as dit, tu l'as répété, s'il y a une équipe qui a plus à perdre que l'autre, c'est pas vous.
C'est pas nous, franchement. Ouais. Nous, c'est un kiff d'être revenu. Le but, c'est le maintien, mais ça, je pense que c'est la première chose qu'on s'est mise en tête.
On en parlera un petit peu plus tard.
Mais quand on voit qu'on peut gagner contre nos concurrents directs, quand on voit qu'on peut gagner contre Montpellier, franchement, ça fait, entre parenthèses, rêver. Donc, on y va et puis on dit, si on peut taper Lyon, on y va. c'est important.
C'est peut-être une chance de les jouer aussi tôt par rapport au calendrier.
Oui, et par
pour
rapport
des clubs
à
comme ça. Voilà, oui.
Parce que Montpellier a perdu 2, donc elles n'étaient pas très bien. Lyon a déjà perdu.
Ouais.
Et des grosses défaites de 30 points, tout ça. Donc, on se dit, si elles ne sont pas bien, on n'a qu'à profiter. on y va.
Ce serait qu'on peut faire un peu le parallèle avec le SCO qui a joué les gros en début de saison, et on voit que le tirage au sort du calendrier leur a porté quand même chance, et on voit le classement actuellement. Et là, je pense, quand on est un promu, d'avoir un classement comme ça, vaut mieux avoir limite les grosses galères contre les grosses équipes en début de saison. On se dit, ça passe, tant mieux, c'est des points d'avance qu'on a sur le planning pour se maintenir. Ça passe pas, tant pis, on a encore des cartouches pour plus tard, mais... C'est vrai que c'est en termes de calendrier, c'est peut-être le calendrier rêvé.
Exactement ça. Franchement, c'est exactement ça. Et puis après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on joue sur le goal average. Ça veut dire que si on gagne, on essaie de gagner un maximum au niveau des points. Et si ça, comme ça, à la fin de saison, on gagne contre nos concurrents directs. Et les matchs comme Montpellier, Lyon et autres, si on les gagne, c'est du bonus en fait.
On peut peut-être rappeler les enjeux entre les. Au niveau du classement, combien de clubs redescendent, combien de places peuvent avoir leur importance, tout ça?
Effectivement, c'est un championnat que je trouve vraiment très dualiste sur la fin, parce qu'effectivement, soit on est en play-off, donc on peut donc disputer le titre, soit on est en play-down et on peut potentiellement descendre si on perd des matchs. Vous, l'objectif, qu'est-ce que c'est vraiment ? C'est les play-offs et après se faire kiffer, ou est-ce que c'est assurer les play-downs et vraiment jouer sur...
En vrai, nous déjà, c'est le match.
Ouais, déjà.
Mais après, on est, comme on est en pleine compétition, dans notre tête, on préfère viser haut pour que... Enfin, comment dire ? J'ai pas envie de trop parler.
Va falloir assumer sur le parquet.
Voilà. J'ai pas envie de nous porter la poisse, mais en fait, le but, c'est d'attaquer les play-offs.
Ouais.
C'est gros, mais on veut se donner les moyens d'y arriver. Mm-hmm. Maintenant, si on y arrive, mais c'est un exploit de fou. Ouais. Mais si on n'y arrive pas, au moins...
Vous avez rien à perdre.
On n'a rien à perdre. Et en fonction des play-downs, on a pu gagner contre nos concurrents directs. Donc, on a quand même un peu un pied, un peu, on peut respirer un peu, tu vois. Mais c'est vrai qu'on veut viser les playoffs. Et là, vu le mood dans lequel on est, je pense qu'on peut. Ouais. Franchement, on peut.
Vas-y, Cédric.
Oui, puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes en plus qui doivent se dire, bah, même avec le niveau qu'on a, on va jouer cette année les play-downs parce qu'on sait que ça va être compliqué. Je pense que tout le monde est dans le même mouvement, c'est on tente le plus haut. Donc je pense que s'il y a une équipe qui commence à se dire, bon, pas grave, nous, on va jouer plutôt les bas de tableau pour se maintenir, je pense que ça va être compliqué, effectivement, compliqué, même contre les grosses équipes et même les adversaires directs. Ouais.
Puis même dans nos têtes, inconsciemment, on est conditionné maintenant. Enfin, on sait ce qu'on veut, mais on est conditionné et puis on part tous dans le même chemin. Donc après, soit on peut, tant mieux. Si on peut pas, c'est parti, on va se battre pour se maintenir.
Et très bien. Alex, on va passer à la première pause musicale et puis on reviendra après. On s'intéressera encore une fois à Touti. On aura une nouvelle chronique qui a déjà été mise en place la semaine dernière. C'était avec Stéphane Gauthier, le joueur de l'EAB. Donc des questions simples. Hein, tu verras des réponses du tac au tac. Et puis on s'intéressera aussi un petit peu plus à toi, à la personne que tu es. Alex, c'est pour toi.
Et oui, on va passer donc une petite pause musicale. On va s'écouter Laylo et Nekfeu pour le titre spécial.
Parce que wow. Faut faire la monnaie, faire très très vite. Tes sens de tout niquer rétrécissent. Mais tu t'emballes et t'es intrépide. Tu ne veux jamais faire comme les autres. Mais des fois tu le fais pour tuer le time. Des petits bails, un peu de détails. Même si tu sais que tu vaux mieux que ça. Négro t'es spécial, négro t'es la suite. Qui peut tout changer, qui peut mettre les moves à la mode. Que des niques ta mère, très peu pour toi les diamants. Donc, oh, t'es tout seul dans le Viano. Bien sûr que t'as le mort, bien sûr que ça va pas mentalement. Bien sûr que t'es plus le même, ils savent pas de quoi t'es capable. Mais moi, I know que t'es space, t'es différent, toi t'es spécial.
Hey. Spécial. J'ai des blocages, mais dans la vraie vie, flocage. calme. Toujours méfiant devant un blanc caché. Premier feu fit flingue dans le local. Rec par PLK, 10 ans à l'occasion. Vision hélico longue et la vocale. Mensonge sur la langue de l'avocat. Perdre l'envie de l'avenir sur un claquage. Perdre la vie sur un placage. Que deviendrons-nous type? Même moi j'ai pas de bon diplôme. Pour comprendre leur mot diplôme. Lis le monde diplôme et le bon diplôme. Un frère aide un frère quand il peut. Je laisse ouvert la fenêtre quand il pleut. On séchera sur la moquette comme des vieux chiens mouillés au coin du feu. Se chamailler, se battre. Ne jamais les décevoir. Ceux avec qui je passais l'été sous le bat. Les seuls qui m'ont prêté des vrais se battre quand c'était spécial.
C'était le titre spécial, donc Laylo et Nekfeu donc sur ce même titre. On est de retour dans Génération Sport pour la suite et fin de votre émission sportive de Radio G. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou sur www.radio-g.fr. On est donc de retour avec notre invité Tutti Grandega. Max, je te laisse la main pour la suite de l'interview.
Et oui, donc juste avant de passer aux fameuses questions que Cédric nous avait fait la dernière fois pour le joueur de l'AB. Comme j'ai dit, on va plus s'intéresser, donc on s'est intéressé au début de saison de l'AB, on va plus s'intéresser à toi. Et j'aimerais d'abord aborder un sujet pas très joyeux, mais qui a fait partie de ta carrière de joueuse, parce que tu as subi il y a quelques années une grosse blessure.
Oui, j'ai eu trois fois la même blessure.
Ah oui, trois fois, donc c'était les ligaments croisés du genou, du genou gauche.
Ouais, deux gauche et un droit.
Et la première fois que tu as cette blessure, tu avais 21 ans ?
18 ans.
18 ans ? Wikipédia, c'est vraiment très
bien. Non, mais c'est vrai parce que mon deuxième, c'était à 21 ans.
Ok, donc ton premier à 18 ans, et justement, bah, ça a encore plus de sens. Comment on vit une blessure comme ça à cet âge-là ? Et surtout, comment toi, tu as réussi à passer outre cette blessure qui, on le sait, a gâché des carrières de très jeunes joueurs, de très jeunes joueuses.
Au début, c'était difficile. Bon, la première fois, j'ai 18 ans, je suis encore jeune, donc la rééducation, la cicatrisation, ça va plus vite, logiquement. Après, j'étais bien entourée, j'étais à Mondeville, c'était mon club formateur et mon premier club pro. Mmh. Donc, j'étais vraiment bien entourée. Il n'y avait rien à dire. Après, bon, c'est vrai que le deuxième, on sort d'une grosse saison Eurocoupe, je fais une grosse saison. Et l'année d'après, on se qualifie pour l'Euroleague. Et pendant la prépa, je me fais mon deuxième croisé. Donc là, ça a été un coup dur parce que t'es jeune, t'as 21 ans, tu sors d'une bonne saison et t'as l'opportunité de toucher le plus haut niveau européen. Mmh. Donc là, c'est vrai que ça m'a pris un coup, mais je me suis dit, bon, je connais le protocole, je sais. Je connais, bon, on repart et c'est bon. Et par contre, la troisième fois que je me fais les croisés, donc c'était à Basketland en Ligue 1. Aussi un club européen aussi, pareil. Là, je me suis dit, bon, il y a un problème. C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a dû travailler sur mon corps, ma manière de manger, mon alimentation, tout. Tout. On a tout revisité. Et depuis ça, bah, ça va. Dieu merci.
Et ouais, donc déjà, que, comme je disais, ça brise des carrières, une telle blessure. Mais là, mentalement, tu as dû être très forte. Donc, tu as eu deux très grosses blessures en trois ans. Donc, au tout début de ta carrière, je pense qu'il y en a beaucoup qui se seraient arrêtés là.
Ouais, on me le dit souvent. On me dit, au bout du premier, il y en a qui s'arrêtent. Mais je ne voulais pas arrêter sur une blessure comme ça. C'était ma passion, c'est devenu mon métier très jeune, très tôt. Donc, voilà, j'ai eu mes parents aussi. Il y a le côté spirituel qui est entré en jeu. Parce que quand on est croyant, bon, on dit, bah, c'est comme ça, c'est écrit. Mais franchement, dans les deux clubs dans lesquels j'ai eu mes croisés, donc mes trois croisés, que ce soit le staff ou autres, ils m'ont toujours bien entourée et j'ai été dans de bonnes mains du début jusqu'à la fin. Côté mental et côté physique, j'ai pu préparer physiquement. Franchement, c'était des épreuves vraiment dures, mais je voulais pas arrêter comme ça.
Et donc, t'as été arrêtée pendant combien de temps si on rajoute à ça la rééducation
Alors, pour revenir d'un croisé, pour revenir à ton niveau d'un croisé, ça, franchement, un an.
Oui.
Parce que là, ça dépend des gens aussi, comment ils reprennent. Mais au bout de 6 à 8 mois, tu peux reprendre. Et ensuite, retrouver ton niveau de jeu et tout ça, bon, ça prend un peu plus de temps. Mais je pense qu'en un an, pour certaines personnes comme moi qui ont de la chance, on peut reprendre.
Un an, quand tu as 18 ans et que tu débutes ta carrière, c'est très long.
Bah oui, non.
Non.
Bizarrement, j'étais avec mes copines de centre de formation. Ça passait, j'allais voir les kinés, j'allais voir les filles s'entraîner. Et puis après, je pouvais rentrer aussi quelquefois à Paris chez mes parents. Donc franchement, ma première année, ça s'est très, très bien passé. C'est surtout le deuxième qui a été long. Parce que le deuxième, bon, je prends de la maturité. Oui, mais je prends de la maturité dans mon jeu. Et je rate des choses que c'est pas dans tous les clubs que tu peux évoluer en Euroleague. Donc ça, celui-là, il m'a fait vraiment mal. Je me suis dit, mince, c'est quand j'arrive à, entre parenthèses, à l'apogée qu'on me coupe à nouveau. Donc, c'est vrai que le deuxième m'a fait mal.
Puis à 21 ans, tu avais peut-être plus déjà d'ambition pour une carrière professionnelle qu'à 18 ans, où peut-être tu cherchais encore un peu.
C'est ça, à 18 ans, tu fais le banc des pros, tu t'entraînes et puis bon, tu fais ce que tu peux. Mais quand tu arrives à 21 ans, bon, on te donne un rôle. Tu es jeune, tu fais partie des meilleurs jeunes. Et comme je l'ai dit, jouer en Euroleague, c'était un truc de fou. Tu joues contre des Diana Taurasi, tu vois des Diana Taurasi sur ton terrain, des jeux de WNBA. Donc, c'est vrai que le deuxième, il m'a fait mal physiquement et mentalement, mais on est reparti.
Donc, Cédric, vous avez parlé du mot ambitieux, et justement, tout à l'heure, quand je me suis baladé sur le site de l'UFAB, j'ai pu découvrir tes qualités, tes défauts, comme ils aiment bien l'afficher.
T'as vu aussi ses spécialités culinaires ?
Il me semble que c'est affiché.
Et oui.
Il me semble que c'est affiché en plus. Mais c'est pas ça dont je voulais parler. Et donc oui, ta qualité, c'est marqué que t'es ambitieuse. Et donc comment cette ambition, elle s'est traduite tout au long de ta carrière, dans tes choix de carrière. Et est-ce que cette ambition, elle se traduit aussi sur le parquet à chaque match?
Bah déjà, je suis ambitieuse dans le sens que quels que soient les clubs ou autres, je vais toujours essayer de viser plus haut. Donc après, bon, j'ai eu les problèmes de croisée, donc je me suis rétrogradée en Ligue 2. Mais même en étant en Ligue 2, j'ai toujours cherché des clubs qui veulent gagner des titres, gagner, créer quelque chose. Donc je suis ambitieuse parce que j'ai envie de, ouais, toujours aller plus loin, toujours aller plus haut, même si c'est dur. Mais c'est un truc que je lâche pas. Ça fait partie de ma personnalité. Je lâche pas. Même si quelquefois c'est dur, hein. Franchement, mentalement, physiquement, le basket, quelquefois c'est dur, mais je me dis non, je peux pas. Je sais pas, il faut avoir des ambitions, il faut aller toujours plus haut.
Est-ce que ton ambition t'a déjà porté préjudice ou pas?
Non.
Ça peut aussi être un défaut. Trop d'ambition peut être un défaut.
Oui, mais là, pour le coup, Dieu merci, ouais, ça va pas porter préjudice. J'ai eu beaucoup d'ambition, mais voilà.
Et c'est pas fini?
C'est pas fini. Là, déjà, on est en club, on a des ambitions, on a des objectifs, mais c'est pas fini.
Et justement, j'ai parlé du mot défaut. Selon l'UFAB, ton défaut, c'est que tu es impatiente.
Oui, c'est quelque chose que... Je suis impatiente, il y en a d'autres, hein, mais je suis très impatiente. Du coup, même par rapport à mes croisés, ben là, c'est un très gros défaut. J'étais impatiente, je voulais absolument revenir. Mais si tu reviens trop tôt, tu peux péter ton croisé. Et ça, l'intégrer, c'était compliqué. Moi, quand je veux un truc, je le veux tout de suite maintenant. Et quand on veut gagner, ben, on a un match, on a 40 minutes, on n'a pas le temps, on se donne tout de suite maintenant. Je suis pas patiente du tout. Et ça, c'est vrai, ça peut me porter préjudice.
Et est-ce que des fois, avec tes coéquipières aussi, ça peut être un peu gênant? Tu peux avoir des... Alors, pas des grosses mauvaises réactions, mais des fois, avoir des petits sauts d'humeur pendant un match.
Pendant un match, non. Pas par rapport à mon défaut.
Ouais.
Pas par rapport à ça. Parce que je suis impatiente, mais je suis pas perfectionniste. Pas, donc. Okay. C'est-à-dire que si on va faire un système de jeu, la fille, elle se trompe, je vais pas lui crier dessus.
Oui, bon.
Voilà. Mais c'est vrai que bah, sur le terrain ou en dehors, ça va, ce défaut-là n'est pas trop... J'embête pas trop les
coups. Ok. Et donc, on en parlait en off pendant la pause musicale. Tu as un côté aussi engagé. J'aimerais que tu nous parles plus en détail de... Tu organises toujours une collecte de fonds et de chaussures pour des jeunes filles de Bamako, donc au Mali. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Et je crois également que tu as une association qui se lance.
Ok. Donc, moi, je suis marraine d'une association qui s'appelle la CDATG. Donc c'est un ami qui m'a fait marraine et en fait il s'occupe de jeunes filles de quartier au Mali ou à Bamako qui font du basket de rue. Donc il m'a fait de moi la marraine de cette équipe et en fait CDATG ça veut dire le club des amis de tous les grands dégâts. C'est long mais désolé, c'est le nom qui a été donné. Donc du coup je m'occupe des petites, donc tout au long de l'année je fais des collectes de fonds, donc via les réseaux sociaux. Et je demande à ce que les personnes qui n'utilisent plus leurs chaussures de basket, au lieu de les jeter, je les récupère. Et en fait, on appelle ça des barigots, enfin des mâles, qu'on envoie après au Mali. Donc, je sollicite tout le monde, des entreprises, comme Basket Co, Connexion. J'utilise aussi l'équipementier Skills, celui qui s'occupe de nos maillots, pour pouvoir faire des maillots aux petites, pour qu'elles puissent jouer avec. Donc, on leur prend aussi là-bas des sacs à dos, des chaussettes, les maillots, tout ça, quoi. Donc, voilà.
Et donc, tu nous racontais aussi comment ça s'est arrivé, c'est venu d'un simple coup de fil.
D'un simple coup de fil. Donc, j'ai un ami qui s'appelle Kara, qui habite au Mali, et il me dit que, Tuti, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'envoyer 60 euros pour acheter des chasubles et des équipements, tout ça? J'ai dit, mais tu veux faire quoi avec tout ça? Il m'a dit, ouais, des chasubles pour jouer, quoi. J'ai dit, mais attends, vu que tu m'as fait de moi ma reine, je vais voir ici ce que je peux faire. Et en fait, j'ai lancé un appel de fonds, tout ça, sur les réseaux. Et ça a fonctionné tout de suite. Mmh. Et je me suis dit, avec les fonds, au lieu de lui envoyer comme ça, j'ai préféré prendre les devants. Et c'est là que j'ai contacté David Péan, donc l'équipementier de Skills, que j'ai contacté Dominique, celui qui s'occupe de Basket Co. Et tout ce qu'ils veulent jeter ou autre, au lieu de les jeter, je les récupère à ma façon, donc les chaussures. Et les équipements, je les fais avec David au niveau des Skills. Donc, je sollicite vraiment les gens. Je ne fais pas ça toute seule. Genre, si je veux choisir une couleur de maillot, je demande aux gens sur les réseaux quelle couleur vous préférez pour les petites. Et vu qu'ils me donnent de la force comme ça, c'est un échange, en fait.
C'est devenu un projet participatif, au final.
Ouais, voilà. Et du coup, je mets tout le monde dedans. Et du coup, voilà, les filles, elles me passent leurs chaussures de basket. Je vais à Paris, je récupère des chaussures de basket. Et franchement, c'est un kiff. Et les petites, elles sont trop contentes.
Ouais, j'imagine. Mm. Est-ce que les gars, vous avez des questions?
Donc là, ce qu'on fera, c'est que... Il y a encore une campagne de fonds là, actuellement, c'est ça?
Oui, en fait, la campagne de fonds, je peux la remettre à tout moment. En fait, c'est sur mon compte PayPal. Et en fait, les gens, ils font les dons. Et les dons, je les transfère directement. Et je les paye avec... je paye directement ce qu'ils ont avec.
Donc là, dès qu'il y aura... des annonces par rapport à ça, nous, de notre côté, on le relayera aussi sur Facebook, Twitter et Instagram quand on l'aura ouvert.
Si on l'ouvre un jour.
C'est presque fait, il faut juste finaliser.
Okay. Et puis là, ouais, en parlant de cette assoce, on en parlait en off, mais du coup, nous, on a eu un maillot de Tuti Gandega qui nous avait été donné. C'était pendant la soirée
C'était la soirée des partenaires fin de saison où justement il y a eu la remise du trophée de la montée. Ce qui était dommage, c'est que voilà, ça a été fait avec les partenaires. C'est vrai que ça aurait été mieux que ce soit dans la salle.
Avec tout le monde, ouais.
Et avec toutes les joueuses aussi. C'est vrai que c'était un petit comité. Bon, c'était quand même bien sympa pour le club, en tout cas, de recevoir ce trophée au cours d'une cérémonie. Mais oui, donc on avait reçu un maillot en titre d'invitation pour la soirée. Et du coup, ce maillot-là, depuis la première émission, on le fait dédicacer. Donc, il est possible que soit, en tout cas, qu'on le fasse gagner si la solution qu'on envisage, c'est de faire une mise en enchère de ce maillot-là
pour que
courant de la saison,
voilà, remis,
pour que les fonds soient remis à une association.
Ouais, exactement. Et donc, si on peut faire ça avec ce maillot-là ou avec d'autres maillots, pourquoi pas aussi demander au club partenaire s'ils veulent. Exactement.
L'Étoile ou les Yankees, s'ils veulent se joindre.
Carrément.
À ce mouvement, on pourra voir, selon le nombre de maillots qu'on a, si on divise ça sur plusieurs associations. Enfin, en tout cas, c'est un projet qu'on va réfléchir, puis on vous tiendra au courant de notre côté aussi.
Exactement. Et donc, du coup, on va passer à cette petite partie sur les questions très rapides. Messieurs, qu'est-ce que vous avez préparé?
C'est vrai que je te laisse la main.
Ouais, on va peut-être rappeler le principe. C'est simple, c'est deux propositions. T'as le droit de choisir les deux si ça te convient. Tu peux justifier si t'en as envie. C'est vraiment des questions générales. On va parler de tout, de basket, de sport. Enfin, la première question, du coup, c'est t'es plutôt nourriture traditionnelle malienne ou, on va dire, gastronomie française?
Malienne.
Avec un plat en particulier?
J'en ai deux. Ça s'appelle le mafé, donc c'est avec une pâte d'arachide.
C'est celui-là qui a été mis en avant par le club.
Exactement. Et l'autre, ça s'appelle du tcheb. C'est du riz avec une sauce rouge. Et après, le riz devient rouge et ça se mange avec du poulet, du poisson ou de la viande.
Dans tes temps de repos, tu serais plus à faire du shopping ou en mode cocooning à la maison, à mater Netflix, Disney+, ou...
Netflix. Rester à la maison sous la couette au calme.
T'as une série en ce moment que tu regardes?
J'ai fini You.
Ouais.
Bon, c'est une série un peu... c'est pas pour tous les enfants.
Un peu bizarre.
Voilà, un peu bizarre. Et ouais. Et en ce moment, il y avait Squid Game.
Ouais.
Ouais.
Et ça aussi, bon, c'est pas aussi pour les enfants. Je préfère ouais, préciser ça. Aussi ces deux séries. Le top, c'est le feu.
Je fais juste une petite breaking news. Ça a bougé à l'Ice Park.
Ouais.
Ouverture du score d'Angers.
Et donc,
dans le premier tiers-temps. Ouais. Donc
ça, c'est bon.
C'est encourageant. justement, du coup, en termes de sport, t'es plutôt 100% basket ou tu regardes quand même d'autres sports à côté?
L'UFC.
Ok.
Le sport de combat. C'est un truc... je kiffe trop.
Donc bientôt, tu vas pouvoir lier tes deux passions, Netflix et MMA, avec le film d'Albéry qui arrive au mois de novembre, là.
C'est quoi le titre?
Le titre, alors on me l'a donné cet après-midi.
Oh, je vais regarder, alors je vais
ça. S'appelle Breezed.
Ok, je connaissais pas. Je savais pas que ça allait sortir.
C'est le premier film produit par Albéry et où elle joue dedans, enfin voilà.
Ok.
Max, Alex, vous avez peut-être une question de...
alors c'est peut-être une question plus large. Est-ce qu'il y a une équipe de basket que tu supportes en NBA?
En NBA, j'aimais bien les Warriors, à cause de Curry.
Ok.
Après là, c'est vrai que je n'ai pas suivi la NBA là, mais c'est vrai que cette équipe-là, je l'aime bien.
Ok. Max, t'as...
Moi, j'ai pas forcément de petites questions comme ça. Juste, on en a très vite fait parler, mais on va parler du prochain match. C'est face à Lyon. Ouais. Face à l'ASVEL, donc comme tu l'as dit, un des très gros de championnat. Mmh. Donc vous allez arriver, c'est un déplacement.
Oui,
vous n'allez pas arriver là-bas complexé et vous allez tout jouer comme face à Montpellier.
Exactement. Et encore une fois, je le répète, même le coach il nous a mis en tête. On part, on joue, on se vide la tête et puis on y va. On gagne tant mieux. On perd, bah c'est comme ça et on passe à autre chose.
Et donc là, l'émission touche à sa fin. On remercie une fois de plus Touti d'être venu.
Merci à vous en tout cas de m'avoir...
Si tu as des dernières choses à ajouter, c'est ton moment.
Non, bah, merci à vous, c'était cool. J'ai bien aimé partager avec vous. Et voilà, on se donne rendez-vous dans un autre mardi avec une autre joueuse. Et bonne continuation à vous.
Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter personnellement et sportivement parlant avec l'UFAB pour la suite?
Personnellement, la santé, plus de blessures.
Ouais.
Franchement, c'est le plus gros.
C'est derrière les blessures.
Franchement, pour le moment, c'est derrière. Et pour les FAB, vraiment qu'on fasse un exploit, que les gens kiffent, que les gens du public, tout le monde puisse kiffer aussi avec nous. Franchement, et te faire mieux que ce que les gens peuvent penser de nous.
Et puis, faut rappeler, enfin, que les matchs de basket sont quand même assez accessibles en termes de tarifs, donc il faut pas hésiter à y aller.
Et donc voilà, l'émission touche à sa fin, pardon. On va vous laisser tout de suite avec la suite des programmes. Ce sera tout de suite Calibre 58. Juste avant, un petit point au niveau du basket. Le AB est en train de gagner à la mi-temps 47 à 26 et le SO Cholet au niveau du football a perdu 4 à 3 face à Villefranche-Beaujolais. Voilà, on vous laisse avec...
Donc, 2-0 chez les Ducs.
2-0 chez les Ducs. On vous laisse avec l'équipe de Calibre 58 qui arrive dans le studio. Et nous, on se dit à mardi prochain pour une nouvelle émission de Génération Sport.